Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et oui, bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Nous sommes le 38e jour de l'année et fêtons aujourd'hui, entre autres, les Eugénies. Bonne fête à vous les Eugénies, et c'est également la journée mondiale sans téléphone portable. Autant vous dire que c'est déjà fichu pour moi, je l'utilise beaucoup. Pour m'accompagner aujourd'hui en studio avec mon invité Anne Texereau. Bonjour Anne, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs, bonjour Nicolas, notre invité. Eh bien aujourd'hui, moi j'ai envie de démarrer un cycle avec vous que j'ai appelé un cycle alchimique. On va parler des quatre éléments et je démarrerai avec l'élément terre.
Eh bien justement, j'espère que vous aimez être dehors, chers auditeurs et auditrices, car nous allons mettre les mains dans la terre aujourd'hui. C'est parti.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Et oui, vous, auditeurs et auditrices de Radio G, écoutez-moi, vous les avez vus fleurir dans les quartiers d'Angers et ailleurs il y a quelques semaines. Je parle des poubelles dédiées au tri des déchets verts et organiques. Et oui, depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020, qu'on appelle la loi AGEC, le tri des biodéchets à la source est généralisé. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est une action concrète pour l'environnement, mais également une pierre à l'édifice pour sauver notre terre, comme le chante les Kids United dans cette chanson « L'hymne de la vie ». D'ailleurs, c'est un titre qui est une reprise d'un générique de dessin animé « Les mondes engloutis » qui a été composé par Vladimir Kosma. Très très grand compositeur. Aujourd'hui, nous allons donc parler compostage et valorisation des matières organiques. Et je reçois dans le studio Nicolas Audigan de l'entreprise Label Verte. Bonjour Nicolas, bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour Yves, bonjour à tous les deux. Bonjour aux auditeurs, merci pour l'accueil.
Eh bien avec très grand plaisir. Alors ma première question est directe. Vous êtes chargé de développement au sein de Label Verte. Quelles sont vos missions et quel est votre rôle au quotidien dans cette entreprise, Nicolas ?
Alors, mon rôle au quotidien, avec l'ensemble des autres collaborateurs de Label Verte, on est une équipe de 10 personnes, c'est d'être un couteau suisse des composteurs. J'installe des sites de compostage, comme mes autres collègues, mais également je fais du développement commercial auprès des entreprises pour installer des composteurs chez elles, pour qu'elles mettent en compostage des restes de repas des collaborateurs. Je fais de la communication, du marketing, tout un tas de choses.
Oui, quelque chose de très complet. Alors, il n'y a pas de chevalier Jedi chez Label Verte, mais des maîtres composteurs. Et en quoi consiste ce métier, Nicolas ?
Alors, une des composantes de Label Verte, c'est d'être un organisme de formation. Donc on forme des habitants qui deviennent des référents de sites de compostage, mais on forme également des guides et des maîtres composteurs. Donc vous parliez de Jedi. Avant d'être Jedi, on a le Padawan avec le guide composteur. Donc c'est des formations diplômantes reconnues par l'organisme Calliope. Et donc, on forme aux bonnes pratiques du compostage des professionnels pour une filière qui est en train de se structurer.
Ok, alors justement, quels sont les avantages environnementaux du compostage ?
Les avantages environnementaux du compostage, ils sont multiples. Si on en retient un principal, et c'est vraiment ce que vous avez dit en introduction, c'est de rendre possible un geste de transition écologique pour tout le monde, depuis le pas de sa porte d'immeuble ou de son quartier, détourner de l'enfouissement des déchets putrescibles qui sont gorgés à 90% d'eau, tout simplement dans un bac de compostage. Et si on pouvait faire tout ça ensemble en plus ?
Bah oui, c'est clair. Alors quel type de déchets organiques justement on peut composter, Nicolas ?
Alors on peut, finalement, l'éventail est énorme. Je vais vous le dire. On peut composter un vieux jean en coton, parce qu'il y a du coton, donc les vers de terre et toute la vie du sol pourra dégrader la matière. Mais on y va par palier souvent. On commence d'abord par tout ce qui est crudité, donc épluchure de fruits, de légumes, mais on peut ajouter le marc de café, les coquilles d'œufs, donc des éléments biodégradables qui se dégradent très très bien dans le compostage, des pots d'agrumes également, parce que l'agrume est autorisé dans les sites de compostage. Et puis, par contre, en fonction des recommandations de collectivité ou pour rendre le geste facile et monter en compétence au fur et à mesure en se formant avec les maîtres composteurs, on ira plus tard pour mettre des restes de repas ou des os ou déchets carnés.
D'accord. Alors
voilà, on commence d'abord vraiment par les choses de base que sont les épluchures de fruits et de légumes, les coquilles d'œufs, le marc de café, le sachet de thé, des choses qui se dégradent bien plus facilement avec des gestes très simples. Pour ensuite, si jamais on acquiert vraiment le geste de compostage, eh bien, y intégrer des déchets qui demandent un peu plus de pratique.
Oui, alors vous parliez justement à l'instant des jeans. Pourtant, il y a certaines manufactures qui utilisent quand même des solvants pour les couleurs ou ce genre de choses. Ça ne pose pas un souci pour le sol ?
En soi, ça pose un souci. Et puis, mais en tout cas, c'est vous dire que c'est possible. Après, c'est comme le papier journal. Il y a une filière qui existe pour revaloriser un journal, un vieux journal. Il y a des filières qui existent pour valoriser des vieux jeans en nouveaux jeans. Il y a une marque dans le sud de la France qui fait ça très bien. Tout ce qui peut être évité à mettre, tout ce qui peut être revalorisé et à encourager.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut aussi mettre, par exemple, quand on a un jardin, son reste de tondeuse, ses feuilles mortes ou des bouts de branches, par exemple ?
Alors, toutes ces matières-là, donc des déchets verts, en fait, un biodéchet, qu'est-ce que c'est ? On aurait pu aussi commencer par ça. Il y a deux catégories. Il y a donc les déchets qui sont issus de la cuisine et de table, donc tout ce que j'ai déjà pu vous citer. Mais il y a également les déchets verts au jardin, donc toutes de pelouses, tailles de haies, feuilles mortes. Et après, surtout, ce qui est intéressant pour notamment les feuilles mortes, c'est de pouvoir les stocker à côté du site de compost, du composteur où on met les biodéchets. Et ça va servir pour équilibrer la matière. En fait, nos déchets putrescibles sont gorgés d'azote et il faut les agglomérer avec une matière sèche, du carbone, qui permettra d'équilibrer le site de compostage. Et donc, ces feuilles mortes, même si elles sont humides, elles peuvent être mises au compostage et on les encourage à les mettre au compostage. De la même manière, si vous avez des rouleaux de papier toilette ou sopalin chez vous, qui est des matières carton non traitées, on peut également les mettre en tout petits morceaux dans son composteur pour faire le lien entre nos matières carbonées et nos matières azotées.
D'accord. Et les boîtes de coquilles d'œufs, par exemple, alors il y en a certaines qui sont colorées, justement. J'imagine que celles-ci, il faut éviter de les mettre.
C'est ça, il faut éviter. Après, de toute façon, dans une boîte à œufs, ce qui est conseillé, c'est d'enlever déjà l'étiquette commerciale de l'entreprise ou du producteur, et puis plutôt mettre les cartons bruns non traités, donc non colorés.
D'accord.
Mais en soi, après, ça se dégradera de toute façon.
Oui, tant mieux.
Mais évitons d'y mettre des choses qui peuvent être traitées et avoir été traitées, ce carton-là. Et puis, par contre, ce qui sera vraiment à proscrire, ça sera les sacs plastiques réputés compostables ou biodégradables, où en fait, ils sont composés à minimum 50% de matière plastique, donc de pétrole. Et donc, ça, on donnera finalement à manger aux vers de terre, à toute la faune du sol, du plastique. Donc, évitons de créer encore plus de microplastiques, surtout dans les composteurs.
C'est-à-dire que même, par exemple, quand on peut trouver des couverts en bambou, ce genre de choses. Pareil, j'imagine qu'il faut peut-être éviter à mettre dans le composteur, non ? Ou on peut quand même les mettre ?
J'ai envie de... C'est de la matière bois en soi. Après, il peut y avoir des liens, des solvants ou des colles qui peuvent être utilisés dans ces matières-là. Idéalement, il faut mieux les mettre, d'autant plus que la consigne de tri s'est élargie il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, autant mettre un maximum de choses dans les poubelles de tri, plutôt que mettre des choses qui pourraient mettre plus de temps à se dégrader dans les composteurs. Et puis, concentrons-nous vraiment sur ce qui vient vraiment de la cuisine, des préparations des repas et des restes, des épluchures de... Comment dire ? Pardon, les feuilles mortes, par exemple, des résidences, plutôt que mettre d'autres choses qui auront plus de mal à se dégrader.
Oui, finalement, oui. Quelle est votre zone, finalement, vous pouvez rappeler votre zone d'intervention au niveau de la Belle Verte ?
En termes de territoire ?
Oui, de territoire.
Alors, la Belle Verte, peut-être pour une petite précision aussi, c'est une entreprise qui est créée en 2008, qui avait historiquement deux activités principales, qui étaient donc le compostage partagé, mais également la location-vente de toilettes sèches. Depuis quelques années, on s'est vraiment structuré, orienté, avec Eric Sabot, le co-gérant, sur le compostage partagé. Et l'autre co-gérant, Sylvain Réau, lui, a une entreprise qui s'appelle Toilette & Co, qui fait de la location-vente de toilettes sèches, notamment sur une grande moitié de la France pour les événements culturels. Et donc, on s'est restructuré autour du compostage partagé. On est une dizaine de collaborateurs dans l'entreprise. Et notre territoire, notre champ d'action est sur le Maine-et-Loire.
Le Maine-et-Loire directement. OK. Alors, avant de laisser la parole à Anne pour sa chronique, nous allons jouer. Alors Nicolas Audigan, j'ai pris l'habitude dans l'émission de faire des mini-jeux comme ça en première et deuxième partie d'émission. On va commencer d'abord par la carte d'identité de l'entreprise. S'il y a des questions que vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez dire « je passe » sans aucun problème. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt ?
Prêt.
Alors, quel est le nom de l'entreprise ?
La Belle Verte.
Son année de création ?
Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis pas.
Oh, 2008,
bravo,
si vous avez bien écouté.
J'inverse le jeu finalement.
pareil, même question, combien êtes-vous ?
On est 10.
Voilà, donc où êtes-vous situé exactement ?
Alors le siège social est situé à Rochefort-sur-Loire, mais nos locaux sont basés à Angers, rue du Petitoire, près de la place Lafayette.
Ok, quelle est l'adresse de votre site web ?
www.labelverte.fr.
Ok, vous pouvez repréciser ?
Labelverte. Okay. .fr.
Parfait. Quel est votre chiffre d'affaires annuel, ce que vous savez ?
Je passe.
Ok.
Sincèrement, je les ai plus en tête, les chiffres.
Très bien. Merci, Nicolas, pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Quand on parle de notre planète, on parle souvent de mère nature et plusieurs personnes s'accordent même pour dire que nous faisons partie intégrante de cette nature à tel point que l'élément terre, justement, est un peu en nous. C'est le moment d'écouter la chronique d'Anne Texereau.
Je sème, donc je suis. Une chronique de la coach Anne Texereau.
En ce début d'année 2024, j'ai envie de vous proposer un cycle de chroniques autour des quatre éléments : la terre, l'eau, l'air, le feu. Sachez que ces éléments alchimiques sont constitutifs de tout notre être. La terre représente notre corps matière incarné, l'eau, nos émotions et nos ressentis. L'air, nos idées, notre inspiration. Et le feu, la mise en mouvement ajustée de nos actions. Alors je vous propose de faire le parallèle avec le cycle des saisons qui rythme nos vies. Février, période de plein hiver, nous invite tout comme la nature à entrer encore plus en terre. À cette époque, les plantes, les arbres vont puiser dans le sol tous les nutriments nécessaires pour renforcer leur système racinaire et ainsi se fortifier, se développer. Mais que représente l'élémentaire ? L'élémentaire est une énergie structurante, indispensable à la vie, présente dans la graine, le bourgeon, le sable, les cristaux, les minéraux, tout comme les écorces, les sols, les montagnes. Au niveau de notre corps physique, l'empreinte de la Terre peut être subtile. Les sels minéraux, par exemple, dans nos tendons, la silice dans nos cheveux, et très manifestée, les os de notre squelette, les dents ou encore les muscles. La Terre donne une ossature au corps, une architecture pour que la vie puisse se manifester. Sur un plan énergétique, l'élément Terre correspond à notre premier chakra. Ce chakra signe notre ancrage et notre enracinement à la Terre-Mère Gaïa et notre lien associé à ses archétypes. Nous avons bien les pieds sur Terre. Au niveau symbolique, l'élément Terre représente nos fondations, notre assise. C'est tout ce qui nous a construit et continue de nous nourrir. Ce socle parle de nos racines familiales, ancestrales et aussi nos besoins vitaux, ainsi que nos valeurs, ces forces vives qui nous animent. Aussi, j'ai envie, chers auditeurs, déjà de vous faire réfléchir. De quoi avez-vous besoin pour être bien? Et qu'est-ce qui vous met en énergie? Quand notre corps physique est en parfait équilibre, nous ressentons de la sécurité, de la confiance, prêts à persévérer. Vous avez dû déjà goûter à cette force intérieure qui vous procure une stabilité sans faille. Ce chakra racine équilibré apporte une conscience dense et concrète de la matière. La vie est nourrie, tenue, structurée. Nous sommes enracinés, responsables de notre existence. À l'inverse, quand nous n'incarnons pas notre terre intérieure, nous pouvons avoir la sensation de flotter. Nous pouvons être à côté de nos pompes, à deux doigts de trébucher. Nous pouvons nous sentir coincés ou déséquilibrés. Nous voilà désalignés et nous perdons notre centre. Alors, pour équilibrer votre terre, je vous propose un petit rituel alchimique pour retrouver votre ancrage. Partez en balade dans la nature pour faire un bain de forêt. Marchez en conscience en ressentant votre connexion à la terre nourricière. Puis, quand vous êtes prêt, que vous le sentez, mettez-vous à genoux, oui, et touchez la terre en la ressentant depuis vos pieds jusqu'à vos mains et votre corps tout entier. Patientez quelques instants et sentez ses bienfaits. En pensée, adressez-vous à la terre et demandez-lui sa force, sa tranquillité, sa puissance et ressentez la reconnexion à votre essence. Je vous invite même à partir avec une poignée de cette terre pour la disperser dans votre jardin si vous en avez un ou encore la parsemer dans un pot sur votre balcon en mémoire de cette expérience. Cher invité Nicolas, j'ai une question pour vous. Comment nourrissez-vous votre propre terre intérieure? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous êtes sensible et que vous faites comme un rituel, je pourrais dire?
Comme un rituel, souvent quand je rentre chez moi, je passe pas loin du parc Balzac, pas loin de l'étang Saint-Nicolas, et il m'arrive... Très fréquemment, donc déjà j'ai une coupure, je rentre à vélo, donc ça fait du bien de couper comme ça. Mais il m'arrive de faire un petit détour, juste pour me reconnecter ou m'assurer de rester connecté à ce parc environnant et se rendre compte de la chance que l'on a d'en avoir aussi nombreux en ville.
Exact, ouais. Angers propose ça en fait, il y a vraiment beaucoup de parcs, donc c'est sûr que même en ville, on peut bénéficier de la nature. Ouais,
exactement. Merci. Et si je pouvais rajouter juste quelque chose par rapport à l'élément terre, on se rend compte, et là je vais reprendre des propos qui avaient été dits par Marc-André Solos, un expert de la vie du sol, qui disait que on s'évertue à vouloir toujours plus connaître les galaxies, l'espace, et en fait on ne sait même pas forcément de quoi est composé nos sols. On ne sait même pas sur quoi on marche tous les jours, finalement. Mmh. Et ça rejoint un peu tout ça, c'est vraiment un objectif de pouvoir se rattacher un petit peu à nos éléments vitaux.
Oui, 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 on pourrait se rapprocher de tous les peuples autochtones en fait, qui sont vraiment très proches de cet élémentaire et qui ont un respect pour la nature en général. Hein. Oui, c'est vrai.
Et je dirais même plus élémentaire, mon cher Nicolas. Merci Anne pour votre chronique.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Nicolas Audigan, quelle est la différence entre le compostage domestique et le compostage industriel? Parce qu'il y a quand même deux types de compostage finalement qui peuvent exister.
J'ai envie de dire même qu'il y en a trois. D'accord. Il y a le compostage domestique, donc c'est des habitants qui ont un espace enherbé dans leur jardin, leur maison individuelle, et qui ont souvent des composteurs plutôt d'une petite quantité de volume. Il y a les composteurs partagés, donc à l'échelle en pied d'immeuble ou de quartier, donc qui sont dimensionnés plus grands en fonction notamment des habitants qui habitent dans l'habitat vertical ou à l'échelle du quartier, donc plusieurs rues. Et puis il y a le compostage industriel ou le compostage sur des plateformes dédiées de compostage. Et donc il y a une différence de quantité, il y a des différences aussi réglementaires où en fait... pour faire du compostage partagé, nous, il ne faut pas qu'on dépasse 52 tonnes de biodéchets cumulés sur une année. Donc, c'est une tonne par semaine. Et par contre, pour du compostage en plateforme, il y a des aspects réglementaires à respecter.
D'accord. Et alors, justement, comment vous faites pour comptabiliser ce tonnage? Vous avez un moyen de... Je sais pas, vous avez de quoi peser à chaque fois ou...
Alors, pour parler spécifiquement du compostage partagé, qu'il soit en pied d'immeuble ou de quartier, donc qui est l'activité principale de la Belle Verte sur le compostage, on part surtout d'estimations de l'Agence de l'Environnement, de l'ADEME, qui estime qu'il y a environ 40 kilos de biodéchets par habitant par an qui sont générés. Et donc, nous, quand on installe un site de compostage, on va rencontrer d'abord les gens en porte-à-porte pour les informer qu'il y a un site de compostage qui va arriver. Et le jour où ils viennent, où on installe le site, ils récupèrent un petit seau spécifique. Et à ce moment-là, on leur demande le nombre de personnes qui composent le ménage. Et ce qui nous permet de quantifier, au moment de l'installation, le tonnage détourné de l'enfouissement, de l'incinération, et d'avoir des idées de tonnage qui sont donc détournés. Et... En 2023, sur les 450 sites de compostage partagé qui sont actifs sur Angers-Loire Métropole, on a détourné un peu moins de 500 tonnes de biodéchets de l'enfouissement de l'incinération.
D'accord. Ouais, voilà. C'est ce qui est
Mais sur les 450 sites, donc finalement, on est en moyenne de environ une tonne chacun des sites.
D'accord. Et donc, ouais, les fameux biosseaux, hein, c'est ça, ils sont fournis finalement gratuitement aux personnes ou il faut qu'ils les achètent?
Alors, la collectivité, pour prendre l'exemple d'Angers-Loire Métropole, ils fournissent plusieurs choses, Angers-Loire Métropole, aux habitants. Ils fournissent donc le matériel, donc un biosseau par ménage. Ils fournissent les composteurs, forcément, qui sont installés au pied d'immeuble, donc c'est gratuit. C'est à partir, notamment, nous, pour avoir un suivi technique de la Belle Verte, c'est à partir de 10 logements. La collectivité finance également une formation à des habitants qui s'engagent bénévolement avec nous à suivre le site de compostage. Donc, ils viennent se former avec nous à la Maison de l'Environnement pendant une journée entière sur les bonnes pratiques du compostage, mais également sur comment aborder le compostage en 10 secondes quand on prend l'ascenseur avec un voisin. Et puis, Angers-Loire Métropole finance également les visites de suivi où, à partir de l'installation jusqu'à 18 mois après, on vient régulièrement, on prend rendez-vous avec les référents et on s'assure que le site fonctionne, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement et surtout que les habitants et référents bénévoles ne sont pas laissés seuls.
D'accord.
À la gestion de ce site-là.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler des innovations un peu dans le domaine du compostage auquel la Belle Verte participe, Nicolas ?
Des innovations...
Si ça existe.
nous, on est plutôt vraiment sur une pratique low-tech et volontairement low-tech, avec des composteurs qui sont fournis par la collectivité qui sont en bois, qui s'intègrent bien dans l'environnement. Souvent, on voit qu'ils sont mieux respectés que peuvent l'être certains points d'apport volontaires de verre ou de carton ou de plastique. Mais il y a d'autres acteurs qui peuvent faire des innovations avec des composteurs connectés, mais nous, c'est vraiment pas notre cœur de métier, notre volonté. On veut plutôt mettre toute notre énergie à créer du lien social avec les habitants.
Oui.
Et c'est peut-être ça qui est mieux.
Mais effectivement, oui, parce qu'il y a, c'est au niveau de la place Bourdillon, si je ne dis pas de bêtises, derrière lequel, là, où il y a un composteur un peu collectif,
alors,
mécanique aussi,
en
qui
effet,
existe.
En effet, il y a eu cette innovation-là. Donc, c'est dans le cadre du budget participatif de la ville d'Angers de 2019. Il y a eu l'achat de composteurs partagés qui s'appellent des écovores, donc ils sont en acier, qui sont hors sol. Et en fait, c'est un composteur qui peut contenir jusqu'à 40 ménages qui font leurs apports, c'est sur liste d'attente. Il y a des familles qui attendent pour pouvoir y participer. Mais donc, oui, c'est un peu innovant. Mais finalement, sur tout le parc installé, il n'y a que ces deux sites-là. Donc, un Place Bordillon, derrière le Théâtre du Quai, et un autre Place Ney.
D'accord.
Voilà. Okay. Mais, ça fait partie des budgets plutôt innovation et budget participatif. Donc, ce n'est pas le cœur des produits installés sur la collectivité. Okay. Compostage.
Très bien. Alors, le compost, hein, justement, est un processus qui demande du temps, hein, et de l'observation. Nous allons donc également prendre un temps de pause dans l'émission avec notre traditionnelle pause musicale. Nous allons écouter Plus Rien du groupe québécois Les Cowboys Fringants. On reparle de ce choix musical avec mon invité Nicolas Audigan juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la peine et qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles, que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, ils ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par la grosse maladie. Et les autres sont morts par la soif ou la faim. Retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Et mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho. Et je suis toujours en compagnie de mon invité Nicolas Audigan de l'entreprise Label Verte et aussi en compagnie d'Anne Texereau, dont vous pourrez écouter sa chronique en replay sur le replay de l'émission, justement. Nous venons d'écouter Plus Rien du groupe québécois Les Cowboys Fringants. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre musical, Nicolas ?
Pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions quand j'écoute Les Cowboys Fringants. Ça fait 20 ans que j'écoute Les Cowboys Fringants et ils ont la base de ma prise de conscience, je pense, de l'environnement, de l'écologie. C'est grâce à eux que j'ai pu aller faire un... Enfin, grâce à eux. C'est grâce à cette curiosité de la belle province du Québec que je suis allé faire un stage là-bas. J'y suis retourné vivre un an en permis vacances-travail. Donc vraiment, je suis un amoureux de la poutine. Je ne vais pas vous le cacher. Mais ils sont force de paroles qui ont du sens et qui peuvent nous faire déprimer fois mille. Mais à côté de ça, ils ont une musique qui nous raccroche et qui nous donne envie de continuer. Et voilà, il y a une autre chanson de leur part qui s'appelle Les Étoiles Filantes, qui est super. Et voilà, c'est aussi une façon pour moi aujourd'hui de rendre hommage à Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est décédé mi-novembre l'année dernière. Voilà. Donc, beaucoup d'émotions.
Ouais, ben on le voyait à nous hein, pendant la pause. Effectivement, vous mettiez un peu là, sur les moments un peu de cœur qui bat. Vous aviez votre main sur le torse. On sentait vraiment cette émotion. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment une. Enfin, moi, je la connaissais déjà, mais je la trouvais vraiment superbe, ce titre musical. Donc, on a parlé des collectivités locales un petit peu, justement. Comment vous travaillez avec elles ? Est-ce que déjà vous travaillez qu'avec Angers Métropole exclusivement ou est-ce que vous êtes d'autres collectivités sur le territoire ?
Alors, depuis 16 ans qu'existe la Belle Verte, on a travaillé avec de multitudes collectivités sur le territoire du Maine-et-Loire. À l'heure actuelle, on est en marché public avec deux d'entre elles. La première, donc, c'est Angers Métropole depuis 15 ans, et pour assurer le suivi du compostage partagé, les pratiques. Et puis, depuis début 2022, on est également attributaire du marché avec Mauche Communauté, donc qui regroupe des communes qui longent la Loire à partir de Mauche-sur-Loire jusqu'à aller au nord de l'agglomération du Choletais.
D'accord. Ah oui, c'est un beau territoire, hein, là aussi. Est-ce que vous faites des programmes éducatifs chez La Belle Verte pour sensibiliser justement les écoles ?
Alors, on peut intervenir auprès des écoles. On est déjà intervenu par le passé dans des écoles, justement, à tous les niveaux. Hein, on a des mémories sur la faune du compost, on a des différentes animations. Et puis, on travaille avec Angers Métropole, tous ces habitants que l'on a formés, qui sont des référents de site, à les faire se réunir régulièrement dans l'année. On leur propose plusieurs temps forts. Et c'est un temps d'animation comme un autre aussi, où on s'assure de leur dispenser des animations intéressantes qui leur permettent de comprendre, d'appréhender de nouvelles choses sur la vie du sol. Et dernièrement, par exemple, on a lancé la boucle du compost, donc qui est une production du réseau Compost Citoyen, donc une association nationale en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, l'objectif de cette boucle du compost, c'est ni plus ni moins la fresque du sol, mais adaptée au compostage partagé.
D'accord.
Et donc, on la dispense auprès des référents de sites que l'on réunit à la Maison de l'Environnement dans le cadre d'une animation également.
Ok, ouais, hyper intéressant. Alors justement, quand une loi là, comme celle qui est passée là, au 1er janvier est mise en application... c'est vrai que des fois, il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que les citoyens puissent l'assimiler. Nicolas Digan, quel conseil vous pourriez donner justement à tous les auditeurs, auditrices et aux différentes personnes qui souhaitent composter mais qui n'y arrivent pas encore ? Comment les emmener à aller au compostage ?
Eh bien, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, La Belle Verte donc, fait des suivis de sites de compostage, on a plusieurs centaines, mais on s'évertue surtout à faire de la formation. Et donc, que l'on ait une maison individuelle avec un composteur ou que l'on habite un habitat vertical sur notamment le territoire d'Angers Métropole, nous, on peut vous inviter, auditeurs, chers auditeurs, à venir... à une formation que l'on dispense, donc à la Maison de l'Environnement pour le compostage domestique. En une demi-journée, un samedi matin, vous apprendrez tout pour équilibrer, rééquilibrer, vous assurer que votre site de compostage perdurera et qu'il n'aura pas de problématiques de nuisibles, moucherons ou potentiels rongeurs. Et puis, ceux qui habitent en habitat verticaux, on vous invite à vous rapprocher de votre syndic de copropriété ou de votre bailleur social pour lui dire « j'ai un projet, je suis intéressé pour ça » et nous, on s'assurera de pouvoir bien vous former également à devenir référent de site.
Je trouve ça très poétique de dire habitation verticale plutôt que dire immeuble. J'aime beaucoup. Anne, ouais, vous aviez une question aussi à poser à Nicolas.
Oui, moi j'ai une question un peu technique. Et puis comme on a la chance, Yves et moi, d'avoir un expert sous la main, j'ai envie de dire, de la belle verte. Donc j'en profite. J'ai déménagé dernièrement avec un terrain plus grand. C'est un peu particulier, mais je mets en place en fait un composteur qui a un certain volume déjà. Et j'ai envie à un moment donné de mettre en fait cette décomposition dans mon jardin pour le potager. Et je me disais, quels sont les cycles? Est-ce qu'il faut attendre un an révolu? Ou est-ce qu'on peut... Parce que je suis en plus sur Instagram des gens qui sont très permaculture. Je pense à un gars qui s'appelle le permacultueur et qui est connu, qui est passé au quotidien avec Yann Barthès. Enfin bref. Et du coup, je me disais, certains disent, vous pouvez déjà mettre dans le sol, en fait, vos déchets comme ça, végétaux, et que finalement, les vers vont faire le travail. Ou d'autres disent l'inverse, il faut attendre vraiment qu'il y ait une décomposition déjà dans le bac, et après, transvaser cette terre, cet humus un peu, jusqu'au potager. Voilà, donc je veux bien votre avis sur ça, j'étais un peu longue, mais ça m'intéresse.
Individuellement, moi, je fais un peu des deux, ce que vous avez mentionné. En fait, chez moi, entre septembre et puis avril, je vais mettre mes épluchures de fruits et légumes, mes coquilles d'œufs, dans le composteur dans ma résidence. Et par contre, à l'été, je pense que j'irai plus à le mettre directement au maraîchage, enfin directement dans mon potager, pour que les nutriments qu'il y a encore présents dans ces biodéchets aillent directement nourrir le sol qui va nourrir mes aliments qui sont en cours de production. Donc il y a différentes pratiques qui existent. Après, pour les composteurs dans des résidences notamment ou un composteur domestique, on va encourager ce qui est vraiment cette phase de maturation des biodéchets, et c'est souvent entre 9 et 12 mois. Alors, on peut avoir les retours d'habitants en maison individuelle qui ont juste un composteur domestique, qui continuent à l'approvisionner, et puis ils disent, quand est-ce que je vais en avoir du compost? Et en fait, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est lorsque, à un moment donné, vous prenez une date, vous l'écrivez par exemple sur le composteur, et puis vous vous dites, je continue à faire mes apports par-dessus, mais j'ai peut-être un peu moins brassé jusque dans le fond du composteur, mais juste au-dessus. Et puis, au fur et à mesure, et puis 9 mois après, poussez les biodéchets qui sont du milieu jusqu'en haut, poussez-les vers le fond, et puis ouvrez votre composteur et servez-vous dans la matière qui sera dégradée, qui sera du compost, pour amender vos jardins. Voilà. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est, quand on n'en a qu'un seul, c'est vraiment de prendre une date, au bout de 9 mois, on pousse, on récupère ce qu'il y a dans le fond, on le valorise au jardin. Et puis si vous avez la chance d'avoir deux composteurs dans pour votre maison individuelle, vous faites vos apports. À un moment donné, vous dites à la moitié, vous le fermez, vous le laissez maturer pendant 9 mois à 1 an. Et puis, passé cette date, vous pouvez faire la distribution, et comme ça, vous intervertissez entre le bac d'apport et le bac de maturation.
C'est top, j'apprends. Merci beaucoup.
Parce que finalement, oui, le compost et le produit final qu'on a, c'est pas forcément que la terre, en fait.
C'est des matières organiques qui se sont dégradées, donc il y a énormément de nutriments qui sont hyper intéressants à valoriser par un retour au sol que ce soit le potager, mais même, on a des résidences où ils n'ont pas forcément de jardin partagé. Toutes les résidences n'ont pas de jardin partagé dans leur résidence.
Bien sûr, ouais.
Donc, soit les habitants le récupèrent pour leur jardinière, ou pour s'ils ont un jardin à côté, ou sinon, on le valorise aussi au pied des haies. Et ça sera toujours un bon exutoire, parce que notre motivation, c'est que le biodéchet, la peau de banane, par exemple, qui englobe le super fruit, une fois qu'on a mangé le fruit, qui a fait déjà des milliers de kilomètres, ce serait dommage de faire toujours plus de kilomètres avec cette peau de banane. Donc, notre motivation, c'est surtout d'inciter les habitants, les citoyens, à faire un acte de compostage in situ, sur place, et donner à voir la transformation de ce déchet.
Ouais, ça c'est top. Alors en tout cas, comme tout à l'heure, Nicolas, nous allons jouer. Pour ce deuxième jeu, Nicolas, nous allons faire votre portrait chinois. Est-ce que vous êtes prêt?
Allez, go!
Quel est votre plat cuisiné préféré ?
Tartiflette.
Votre série préférée ?
Oh, Game of Thrones.
Votre couleur préférée ?
Bleu.
Votre sport préféré ?
Hockey sur glace.
Votre ville préférée ?
Montréal.
Ah oui, bah oui, vous en avez bien parlé tout à l'heure. Votre dernier lieu de vacances ?
Les Hautes-Pyrénées.
Ok. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ?
Non.
Non. Et pourquoi vous levez-vous le matin ?
Pour aller toujours plus loin ?
Toujours plus loin, ouais.
Ensemble ?
Oui, ensemble surtout. Merci beaucoup, Nicolas, pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure lors de vos réponses, Nicolas Audigan, mais on pourrait... Enfin, il y a certains détracteurs quand même des composts, hein, notamment pour le fait que ça peut rapporter des nuisibles, que ça peut être odorant. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, justement, aux personnes qui sont réfractaires par rapport à ces idées peut-être un peu reçues ?
Je vais commencer d'abord par une petite boutade et après, je vais vous expliquer ce que l'on peut faire. Quand un site de compostage est installé, on ne vient pas installer un site de compostage avec une flûte pour faire venir des rongeurs, comme la célèbre fable. Une fois qu'on a dit ça, un composteur, ça peut devenir dans un quartier où il y avait déjà des rongeurs, un peu un totem. Donc les rongeurs qui étaient présents en proximité vont être attirés parce que le composteur, la matière en décomposition va dégager des odeurs. Ils peuvent être attirés, mais c'est un révélateur de leur présence. Donc ce qui est bien important, et c'est ce pourquoi on incite les habitants référents de sites notamment, et même globalement tous les habitants qui font des apports dans les composteurs partagés, qu'ils soient de quartier, mais même les gens qui compostent chez eux, le geste d'apporter des biodéchets, de les détourner de l'enfouissement, c'est très bien, mais le geste complémentaire qu'il faut avoir, c'est vraiment de brasser la matière, donc c'est vraiment de l'aérer avec soit une fourche, soit un brasse-compost, donc c'est un espèce de petit ressort qui permet de s'enfoncer facilement dans la matière et d'amener de l'air, et le fait d'amener de l'air, ça va augmenter la température, ça va accentuer la décomposition des matières, donc augmenter la température, et ça va créer... les rongeurs vont avoir aucun intérêt à vouloir s'y installer. Et en plus de ça, une fois que vous avez aéré la matière, que vous équilibrez avec de la matière sèche, donc des feuilles mortes, de la sciure de bois, de la paille, ou même un petit peu de ton de pelouse, en petite quantité pour pas que ça rentre en putréfaction, c'est un autre sujet... Une fois que vous aurez équilibré, brassé régulièrement, il n'y aura pas de problématique de nuisible. Nous, on a peut-être même pas 5% de sites de compostage où il y a eu par le passé, donc sur les 15 ans de retour d'expérience, notamment sur Angers Métropole, où il y a eu du sujet de rongeurs. Donc, en soi, on sait que ça peut être une problématique, mais on a aussi des actions curatives qui permettent de ne pas en avoir, ou le cas où on en a, de pouvoir trouver des solutions.
D'accord. Et au niveau des odeurs, justement, c'est...
Les odeurs, c'est surtout notamment les os ou déchets carnés qui peuvent en avoir. Donc, dans les composteurs, notamment dans Angers Métropole, on ne permet pas de mettre ce genre de déchets dans les composteurs. Et puis, il peut y avoir à l'été des jus qui peuvent être odorants. Et en fait, on a pris le pli, nous, de transmettre aux référents de sites, à chacun des sites de compostage qui le désire, une matière sèche qui est une sciure de bois qui va notamment boire les jus et endormir potentiellement ces odeurs-là. Donc, en soi, depuis qu'on utilise cette matière sèche, en plus des feuilles mortes, des boîtes à œufs, des habitants, eh bien, on n'a plus vraiment de problématique de moucherons, notamment, qui peuvent être attirés par ces odeurs.
Et est-ce qu'il y a des bénéfices économiques, finalement, quand on fait de la valorisation de déchets, ou en tout cas quand on fait du compostage ?
Des bénéfices économiques, quand on installe un site de compostage dans une entreprise,
par exemple,
versus une collecte d'une poubelle spécifique, au début, il y aura un coût qui sera un peu plus élevé pour le compostage sur site, parce qu'il faut s'équiper du matériel. Il faut former son restaurant, enfin, si on prend un restaurant, il faut former les équipes de cuisine ou les personnes qui sont en charge de l'entretien des locaux aux bonnes pratiques du compostage. Mais après, lissé sur année N plus 1, N plus 2, on vient à peu près au même coût que du tout collecte. Et puis, ça peut être surtout aussi vecteur de sens pour en parler entre collaborateurs dans une entreprise, de se retrouver autour du site de compostage, créer du lien social. On le crée entre collaborateurs dans une entreprise, mais on le crée encore plus fortement entre habitants. Quand ils se retrouvent au pied des composteurs, ça devient la nouvelle cage d'escalier, en fait, avec des initiatives qui se créent, des rencontres entre habitants, des reprises en main versus des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec un autre copropriétaire ou avec un syndic de copropriété ou des difficultés. Et donc, ça devient un lieu de papotage.
Finalement, oui, c'est un nouveau réseau social. au sens noble du terme, finalement. Alors, vous parliez des entreprises, ça fait partie d'ailleurs d'une de vos missions, vous en avez parlé en début de l'émission. Vous y allez un peu avec vos bateaux de pèlerin ou vous attendez que les entreprises viennent à vous pour parler compost et développer justement des solutions?
Bon, on répond à toutes les demandes qu'on leur reçoit déjà. Après, on prospecte un petit peu, forcément. Mais il faut vraiment avoir une dynamique de la part des collaborateurs de vouloir le faire. Et c'est intéressant parce qu'on a pu expérimenter quelque chose aussi sur, en haut de l'avenue Patonne, au niveau de Beaucouzé, avec un composteur partagé de quartier, donc qui bénéficie de tout l'accompagnement de la collectivité, mais qui est dédié aux entreprises qui sont domiciliées dans deux, trois rues. Et en fait, il y a un collectif qui se crée. Et il se rend compte de la pertinence que ça a. Et puis voilà, il y a une dynamique qui se crée en entreprise. Donc on prospecte un petit peu, mais on s'assure surtout de trouver une solution adéquate pour toute demande que l'on reçoit. Et puis voilà, en s'assurant que la personne qui nous fait la demande avec ses collaborateurs a bien connaissance de l'engagement que ça peut nécessiter versus simplement remplir une autre poubelle. Mais dès lors qu'on a des gens qui ont l'habitude de le faire en pied d'immeuble ou dans leur quartier, ils le font également en entreprise. Donc c'est un acte citoyen qui peut se répéter partout où on va, qu'on soit salarié, qu'on soit membre d'une association, qu'on soit dans un club de sport ou un club de jeux vidéo, par exemple, même si ce n'est pas mon cas. Mais on peut faire ce geste un peu partout. On peut le reproduire sans se mettre en danger.
Et justement, Nicolas Audigan, est-ce que Label Verte participe à des projets un peu de recherche, on va dire, liés au compostage ou à la valorisation des matières organiques?
Alors, des projets de recherche, pas forcément. On vient de démarrer, par contre, et là, c'est la première fois que finalement qu'on parle de cette nouvelle activité pour nous, même si on revient, entre guillemets, à nos premières amours. On a démarré un projet qui est financé par la région Pays de la Loire et l'ADEME régionale, qui vise à collecter de l'urine humaine pour la valoriser auprès des horticulteurs du territoire. Et ça, c'est innovant pour nous. Et c'est innovant aussi parce qu'on est accompagné par l'expert de l'urine mondiale, enseignant-chercheur, Fabien Esculier, de l'École des ponts et chaussées à Paris. Pas rien.
C'est pas rien.
Qui a une équipe d'une quinzaine de chercheurs sur le sujet, qui nous accompagne pour nous monter en compétences là-dessus. Parce qu'il y a un enjeu énorme, vous l'avez compris, sur la réduction de la consommation en eau, un peu partout, quand on sait aussi que la chasse d'eau représente 20% de consommation en eau pour une maison. Voilà, donc il y a un enjeu de séparer à la source l'urine et de la valoriser autrement que l'emmener en station d'épuration.
J'ai une dernière question à vous poser, Nicolas. Mis à part le compost et le vélo, justement, vous, personnellement, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour être éco-responsable?
Au quotidien, pour être éco-responsable, qu'est-ce que je mets en place? C'est surtout m'assurer de transmettre ce que je crois être des bonnes pratiques auprès de Adèle, ma fille de 5 ans, bientôt. Pour qu'elle puisse en avoir également elle conscience. Et puis c'est toujours plus de zéro déchet, petit coucou à petit pois carotte, c'est plein de choses au quotidien, mais voilà, je donnerai pas de leçons, mais je fais tout ce que je peux.
Et oui, l'émission Les Voix de l'Écho touche à sa fin. Merci beaucoup, Nicolas Audigan, d'être
merci
venu nous parler de Label Verte. Merci beaucoup Anne Texereau pour votre chronique.
Merci.
Merci donc de suivre également l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux et le site lesvoixdeléco.fr. Et plus largement, merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site de la radio, radio-j.fr. On se retrouve le mercredi 21 février de midi 10 à 13h sur le 101.5 FM. On parlera de management en conscience. Prenez soin de vous et merci d'avoir choisi d'écouter un Radio G.